Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Cet épisode est commandité par Hatch, fier partenaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie. Hatch est une firme de génie conseil dans les secteurs des mines, de l'énergie et des infrastructures. Depuis plus de 60 ans, Hatch apporte à ses clients son expérience technique et commerciale pour concevoir des solutions plus ingénieuses, efficaces et novatrices. Grâce à son implication en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, Hatch a été reconnu 3 années de suite comme un employeur de premier plan en matière de diversité et d'inclusion et figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada. Merci à Hatch pour son précieux soutien. Bienvenue dans la deuxième saison de Communiquer au féminin, un balado par la Chaire pour les femmes en sciences et en génie et animé par Léa Museau et Joël Pelletier-Nollet.
Au travers des épisodes, on vous amène à découvrir des parcours, des projets, des succès en sciences et en génie qui vous sont communiqués au féminin. Aujourd'hui, nous recevons Louise Millette. Louise est ingénieure en génie civil et en environnement à Polytechnique Montréal. Elle y est professeure agrégée au département des génies civils, géologiques et des mines. Elle est fondatrice et responsable du Bureau du développement durable. Bonjour Louise, merci d'être là avec nous et d'avoir accepté notre rencontre.
Merci d'avoir pensé à moi.
Oui, bonjour Louise.
Louise, on a un peu fait une petite présentation juste avant, mais est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? On aimerait ça savoir comment vous avez été amenée à rejoindre le milieu du génie.
Bon, j'ai toujours eu un intérêt marqué puis une grande satisfaction envers les mathématiques puis les sciences en général pour une raison très simple, c'est que ça fonctionne. Hein? Quand on fait un calcul, on arrive à une réponse, ben, au moins dans les petites classes, là, puis on est comme certain d'avoir fait la bonne chose. Donc, pour moi, c'était quelque chose que je trouvais vraiment fascinant. J'aimais beaucoup les phénomènes physiques. J'ai passé des heures à jouer avec de l'eau quand j'étais toute petite. Donc, tout ça pour dire que mon amour des sciences et le fait que je réussissais bien à l'école m'a amené à choisir, au sortir de l'école secondaire, le cégep, en sciences, puis de m'en aller en physique pure. En fait, ce que j'adorais, c'était la physique des particules, la physique quantique, c'est fantastique, ça fonctionne, on voit rien, mais ça fonctionne. Mais malheureusement, en cours de parcours, j'ai réalisé que la plupart des débouchés, en tout cas, la cohorte dans laquelle j'étais, se destinait vers des applications militaires. Alors, je me suis dit, ben c'est très, très intéressant la physique pure, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et à ce moment-là, je ne me voyais pas professeur. Donc, j'avais plutôt envie de faire une contribution à l'amélioration de la société ou du monde. J'ai été élevée près de la rivière des Prairies à Laval, qui était à cette époque-là pas très propre. En fait, il n'y avait pas encore de réseau d'égouts ni à Laval, ni à Montréal. Alors, je vous laisse deviner dans quel état était la rivière. Puis, je me disais toujours, ça n'a pas de bon sens, il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe de ces services-là. Donc, après la physique pure, j'ai dit, ben, qui prend des décisions dans les aménagements urbains? Il me semblait que les ingénieurs étaient mêlés à tous les projets. Donc, j'ai décidé délibérément de me tourner vers le génie parce que je voyais qu'il y avait une chance d'avoir un poids dans la construction, finalement, des sociétés. Remarquez que j'avais jamais vu un ingénieur de proche de ma vie, là. Je viens d'une famille très modeste. Mon père était mécanicien, ma mère était femme au foyer. Donc, c'était un saut dans l'inconnu. Le premier ingénieur que j'ai vu, c'est en arrivant à l'école. Donc, c'est ça qui m'a amenée au génie. Puis, à l'Université de Sherbrooke, en fait, j'ai commencé mon bac à l'Université de Sherbrooke parce que le fait que c'était co-op, je trouvais ça absolument extraordinaire parce que ça permettait de payer ses études en même temps qu'on apprenait finalement qu'est-ce que ça fait un ingénieur. Comme j'avais pas le plaisir d'en côtoyer, ben, ça me donnait une visibilité sur le travail. Donc, de fil en aiguille, je me suis spécialisée en protection de l'environnement et quand j'ai terminé mon bac, il n'y avait pas de job. parce que la BGM venait de se terminer et le marché était inondé d'ingénieurs d'expérience. Donc, j'ai décidé de poursuivre au cycle supérieur, toujours en génie, en fait, en eau potable à ce moment-là. Et j'ai tellement aimé l'expérience de recherche puis le travail dans le laboratoire. Moi, dans mon laboratoire, le dimanche matin, j'étais vraiment de bonne temps, que j'ai décidé de faire un doc après ça, un doctorat. Donc, j'ai fini à l'Université de Montréal. Donc, c'est comme ça que je suis tombée de mathématiques en sciences, en applications pratiques, que je me suis ramassée avec un doctorat en génie civil.
Comment le mot « ingénieur » est venu jusqu'à vous, en fait? Vous saviez que peut-être c'était ces personnes-là qui s'occupaient de l'eau, mais d'où est venu cet indice-là?
Bonne question. Dans ces années-là, parce que ça fait quand même quelques années, on avait encore dans les écoles, puis à l'université même, des orienteurs. Donc, des gens qu'on pouvait consulter, puis je me souviens d'avoir rempli des sondages de plusieurs centaines de questions où on nous proposait toutes sortes de métiers allant de chef d'orchestre à pompier en passant par ingénieur et physicien nucléaire ou professeur ou écrivain. Et il y avait toutes sortes de façons de déterminer quelles seraient nos affinités, puis eux avaient nos dossiers scolaires, donc on pouvait mettre ça en lien. Donc c'est peut-être là que l'ingénieur a germé, et peut-être aussi dans les médias, parce que dans les médias, on entend souvent dans le milieu municipal parler des ingénieurs. Donc franchement, bonne question, on ne me l'a jamais posée avant.
En tout cas, moi je trouve ça super intéressant de voir que lorsque vous étiez en physique, vous vouliez pas devenir professeur, mais qu'aujourd'hui, en ingénierie, vous êtes professeur agrégé. Donc, qu'est-ce qui a fait ce changement dans votre carrière? Qu'est-ce qui vous a amené? T'sais, dans le fond, c'est-tu juste la discipline qui a fait en sorte que finalement, vous retrouvez professeur aujourd'hui?
Je pense qu'il y a une combinaison de disciplines. Comme j'ai dit, je viens d'un milieu très modeste. Donc, moi, une des poursuites essentielles dans mon désir d'aller le plus loin possible dans mes études, c'était d'avoir un bon travail avec une grande sécurité. Donc, je voyais que les besoins de la société n'étaient pas pour en manquer de choses à faire. Donc, je pense que c'est un peu ça. Puis, il y avait aussi, je voyais les professeurs comme tellement extraordinaires que je ne me voyais pas comme étant un jour capable de faire ça. Donc, évidemment, à force de traîner dans les universités, j'ai côtoyé des professeurs. J'ai moi-même été mise de force devant une classe par mon directeur de thèse et je me suis aperçue que, bien, avec beaucoup de travail, de détermination, d'intérêt pour que les étudiants progressent, on peut faire un professeur qui est respecté, finalement. Donc, c'est comme ça que... Ça, c'était pendant mes études. Donc, en plus, même en étant à l'université, ayant eu l'expérience d'enseignement, je n'ai pas choisi de devenir professeur. Je suis allée travailler parce que je voulais avoir cette expérience d'application concrète. J'ai gardé pendant plusieurs années des charges de cours. Donc, c'est pour dire que je suis vraiment partie de « je ne veux pas être professeur, je ne peux plus m'en défaire. »
Et d'ailleurs, qu'est-ce qui a changé en génie, selon vous, dans les 10 à 20 dernières années?
Écoutez, la société, en 30 ans, dans mon cas, a beaucoup changé, puis le génie, évidemment, a beaucoup changé. Pour mémoire, là, pour ceux qui sont jeunes, là. Moi, quand j'ai commencé à travailler, l'Internet, c'était encore quelque chose qui était un peu étrange. Le courriel, ça commençait. Il n'y avait pas de cellulaire. Pendant que j'ai fait mes études, on rentrait encore nos codes pour les ordinateurs avec des cartes perforées, là. Donc, le chemin parcouru dans la société quant à la disponibilité des données, le traitement des données, la vitesse des échanges, ça a marqué le génie de façon remarquable. Il y a des outils extraordinaires maintenant qui existent, mais par contre, le rythme, le désir d'avoir toutes les réponses tout de suite, maintenant, ça, c'est ça aussi, ça marque le génie. Donc, la profession a beaucoup changé. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais c'est pas tout, c'est pas tout sans risque, si on veut.
Est-ce que vous vivez, vous, des défis justement liés au génie aujourd'hui?
Le défi, je pense, en tout cas, moi, ce que je vois dans le défi, là, j'entends des... c'est quelque chose qui est partout. Les ingénieurs sont encore maintenant tenus à une obligation de résultat. Moi, je suis ingénieur civil de base. Quand on signe une conception pour un pont, c'est mieux de dire. Il n'y a pas d'à-peu-près-isme. Et ça reste là. Mais à ça, on comprend maintenant qu'il faut que les ingénieurs soient aussi des agents de changement. On ne peut pas continuer à développer. Depuis l'eau potable, j'ai englobé la question plus large du développement durable dans ma carrière. On ne peut pas continuer la poursuite actuelle de consommation, de ressources, de gaspillage, telle qu'on l'a mise en œuvre à partir des années 40. Donc, on a développé beaucoup, beaucoup. Les ingénieurs ont été une grande source d'amélioration des conditions de vie, mais il faut maintenant que les ingénieurs, tout en continuant à faire la technique de façon robuste, il faut qu'ils deviennent des acteurs de changement. Ça veut dire intégrer toutes sortes de dimensions qui ne les attirent pas nécessairement d'emblée. Il y a beaucoup de communication dans devenir un moteur de changement. Il y a beaucoup de patience, il y a beaucoup de compromis à faire. Pas des compromissions, mais des compromis. Il faut comprendre que les entreprises n'ont pas des fonds illimités pour tout faire parfaitement. Donc, il faut des fois accepter qu'ils vont progresser par petits pas ou à la louche. Ça, ce n'est pas nécessairement un bagage typique pour les ingénieurs. Donc, toutes les facultés, toutes les écoles de génie se questionnent sur le contenu de la formation. T'sais, on ne garde pas les étudiants pendant 10 ans. Là. On ne peut pas tout leur montrer. Donc, en 4 ans, qu'est-ce qu'on peut faire se développer en plus de cette robuste compétence technique-là? Ça, je pense que ça, c'est vraiment le défi de demain pour la profession.
Justement, nous autres à la chaire, on a fait une étude sur l'impact des stages pour les étudiantes sur leur parcours. Puis, dans les résultats, on a trouvé que les étudiantes, alors probablement aussi les étudiants en général, c'était pas nécessairement, je pense, un sujet qui pouvait toucher juste les étudiantes, mais que beaucoup d'entre elles avaient comme motivation d'aller en génie pour justement le désir de faire évoluer les choses dans un développement plus durable, justement pour l'environnement, donc faire leur part de ce côté-là. Est-ce que vous avez justement vu ce changement-là, peut-être pour la plus jeune génération qui est entrée sur le marché du travail, d'ingénieurs, qui ont un plus grand souci de l'environnement ou du développement durable?
Là encore, je fais toujours une mise en garde quand on me pose cette question-là. Les étudiants, ce n'est pas un groupe monolithique qui pense tout pareil. Bon, ceci étant dit, il y a quand même des tendances qu'on voit émerger. Et oui, il y a plus de conscience, comme dans le reste de la société, des impacts du génie, des impacts de ce qu'on fait en tant qu'humanité et de nos choix individuels et de nos choix gouvernementaux sur le monde dans lequel on va vivre. Donc oui, ça a évolué. Il y a aussi la présence grandissante des femmes. Parce que quand on fait des études d'intention, quand on va dans les cégeps ou dans les écoles secondaires, puis on demande aux jeunes qu'est-ce qu'ils voudraient faire dans leur vie, puis pourquoi, les garçons, encore maintenant, sont souvent très... puis là, c'est de la généralisation à outrance. Là. Il y a des deux dans les deux bars, mais il y a beaucoup de garçons, le simple plaisir de la technique. tu sais, la construction de quelque chose qui fonctionne, ça, ça les amène au génie. Alors que les filles, c'est rarement ça. C'est toujours dans le but de, mm-hmm. dans le but d'avoir un impact, dans le but d'aider les pays en voie de développement. Ou, il y a souvent une cause plus large en arrière. Donc, je pense que ça, évidemment, plus de filles, ça fait plus cette discussion-là. Mais je pense aussi que les garçons continuent à embrasser les problèmes de la société. Mais il en reste quand même qui, comme dans la société, qui sont convaincus que c'est la technologie qui va nous sauver. Mm-hmm. Des techno-enthousiastes, là, qui n'ont pas pris conscience que on a seulement une planète, puis qu'il n'y a rien, il n'y a pas de tuyau qui nous réapprovisionne là, venant d'ailleurs.
Quand on regarde la socialisation des jeunes filles, on voit que souvent, on les emmène vers plus du travail, du care, on dit, en bon français. Donc, ça fait du sens que finalement, elles se retrouvent en génie, mais avec pour but d'aider à avoir un monde meilleur ou d'aider justement les pays en voie de développement. Aussi, l'ingénierie, c'est considéré comme un milieu traditionnellement masculin. Est-ce qu'on a déjà essayé de vous dissuader d'aller en génie?
Ben, pas spécifiquement. Donc, on m'a pas. Mais comme je dis, je viens pas d'une famille scolarisée. Donc, après avoir fait mon cégep, disons que des gens ne comprenaient pas pourquoi je m'acharnais avec pas d'argent, parce que dans le fond, je vivais sur les prêts de bourse, à vivre dans ces conditions-là pour poursuivre des études. Donc, il y avait une incompréhension. Puis, bon, on me disait, tu sais, ma mère, entre autres, me disait, hey, t'es pas tannée d'être aux études, ça te tente pas de trouver une job, t'es bilingue, tu sais, t'as déjà une bonne formation, tu pourrais être n'importe quoi, travailler dans un bureau, puis gagner ta vie, honnêtement, tu sais, bon. Mais je pense que c'était plutôt par, en essayant de me rendre service. Tu sais, c'était pas une dissuasion. En fait, j'ai eu vraiment que du soutien de ma famille. Bon, j'avais une cousine qui, à chaque fois que je la voyais, on se crêpait le chignon parce qu'elle disait que éduquer des femmes, c'était une perte d'argent et une perte de temps. Disons qu'on ne s'entendait pas, mais c'était l'exception. En fait, le seul moment où j'ai vraiment eu conscience que quelqu'un pouvait penser que je n'étais pas à ma place, c'était un de mes coéquipiers quand j'étais au bac. Un gars avec qui je faisais des devoirs régulièrement, là, tu sais, quelqu'un que je pensais connaître. Puis au fil d'une conversation, il me sort que ben, les femmes ne devraient pas être sur le marché du travail. Fait que là, j'ai dit, ben pourquoi? Tu sais, je suis meilleure que toi, j'ai des meilleures notes que toi. Là. Qu'est-ce qui devrait m'empêcher de devenir ingénieur? Mais il me dit, regardez comment vous êtes construites, les femmes, c'est pour avoir des enfants.
Ah, OK.
Ça fait plus de 40 ans, là, puis je m'en souviens encore. J'étais abasourdie à la voix qu'il le pense, mais qui ose me sortir ça en pleine classe de structure. Non, mais ça va pas. Enfin, fait que ça, mais franchement, je peux pas dire que quelqu'un s'est mis dans mon chemin. Là.
Aussi, on peut souvent lire que le climat de travail en recherche à l'université, c'est ce qui peut limiter le plus la progression de la carrière des femmes en ingénierie. Qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai été dans l'industrie privée pendant 12 ans avant de revenir à l'université. Tous les emplois qui sont de responsabilité où on a de l'initiative, ce sont tous des emplois qui sont stressants, avec beaucoup d'exigences. Les milieux, que ce soit universitaires ou les milieux d'emploi, moi j'étais dans la grande industrie, c'est des milieux qui ont été construits par des hommes pour convenir à des modèles d'hommes qui étaient à un certain moment donné traditionnels. Tu peux faire beaucoup, beaucoup d'heures au travail, que ce soit à l'université ou dans un autre travail, quand quelqu'un est à la maison qui s'occupe de toute l'intendance. Donc, évidemment, ça crée un stress quand les femmes intègrent le milieu du travail et essaient, elles, de faire de la conciliation travail-famille. Donc, oui, c'est vrai que le travail d'un professeur, c'est stressant parce que ça n'a pas de fin. Puis la seule limite, c'est ce que le professeur est prêt à entreprendre. Donc, c'est extrêmement prenant. Mais je pense que c'est pas le contexte universitaire tellement que des modèles où on a une conception de la performance qui est vraiment adaptée à quelqu'un qui n'a pas une vie à côté. Puis ça, j'espère que les jeunes vont nous amener à mettre finalement le travail là où il devrait être, c'est-à-dire pas la seule chose dans notre vie.
Donc, justement, par rapport à ça, à quel niveau pensez-vous qu'il est possible d'agir pour essayer de changer cette ambiance-là, pour soutenir les femmes dans la progression de leur carrière? Donc, vous parlez de la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place là, pour cette génération-là, pour que ça soit un climat plus sain, finalement, moins stressant également par rapport à la performance?
Il y a, surtout depuis les 10 dernières, c'est sûr que ça a progressé. T'sais, j'ai quand même été engagée, j'avais le même salaire que les gars, il n'y avait pas de... on m'a dit des choses. D'ailleurs, j'ai été un peu, en lisant l'étude sur la perception des étudiantes dans leur stage, j'ai été à la fois surprise et déçue pour certaines choses. Surprise de voir qu'il y avait quand même une réflexion très... très structurée de la part des étudiantes sur les conditions de leur stage, mais un peu déçue de retrouver beaucoup des mêmes travers que moi j'ai vécu quand j'étais en stage. Bon, fermez la parenthèse, c'est un rapport qui est très utile, surtout pour ceux qui pensent que le problème est réglé puis il pourra régler. Mm-hmm. Donc, il y a eu une grande évolution, beaucoup des choses de base auxquelles on ne pense pas, toute la question des congés de maternité, des effets de ces arrêts-là sur la progression dans les rangs académiques ou la progression dans les entreprises, il y a eu beaucoup de travail de fait pour essayer de donner plus de flexibilité aux femmes. C'est positif. Mais je pense qu'on est dans une situation de rattrapage. Ça me fait penser un peu, quand il y a eu une loi dans les années 80, il me semble, ou c'est peut-être 90, pour la francisation des entreprises. Maintenant que la population francophone au Québec était scolarisée, il y avait vraiment une difficulté à atteindre des postes de niveau supérieur. C'était, oui, on va les engager, mais ils vont toujours rester dans des postes subalternes. Puis il a fallu qu'il y ait une loi pour forcer la francisation des entreprises. Donc, il y a eu de la discrimination positive. Je pense que si on attend que les choses se fassent graduellement, ça va être très, 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 très long. Donc, je pense qu'il faut qu'on s'assume puis qu'on mette en place des mesures pour donner préséance aux femmes pour ce qui s'établisse à tous les niveaux de hiérarchiques ou à tous les niveaux dans les tâches universitaires. Donc, individuellement, ce qu'on peut faire, c'est exprimer des besoins, mais c'est beaucoup des responsabilités qui sont sociétales, qui sont d'entreprise. Mais là, avec le contexte de la rareté de la main-d'œuvre, ça ouvre des possibilités. Donc ça, il y a une question d'équité, il y a une question d'éthique et d'égalité. Égal, ça ne veut pas dire pareil pour tout le monde. Ça veut dire des chances égales. Donc, je pense qu'il ne faut pas que les femmes pensent que ça va se faire seulement, c'est pas de leur fait, il faut que ce soit un travail de la société. Mais il faut que les femmes expriment quand même leurs besoins.
Absolument.
Elles peuvent aussi comme donner leurs recommandations, mettons, pour la conciliation travail-famille. C'est important d'écouter leurs besoins pour que des choses soient mises en place, par exemple, dans les universités.
Ça a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup évolué. Mm-hmm. C'est, ça, c'est remarquable. Là. Nous autres, à Polytechnique, c'est un syndicat. Et vraiment, les clauses se sont beaucoup améliorées pour reconnaître de donner les moyens aux personnes d'arrêter pendant leur congé parentaux, et de reconnaître que ces cheminements-là, c'est prendre l'année de diplomation et l'année présente, puis diviser le nombre de publications par le nombre d'années sans prendre acte que la personne a été arrêtée pendant 4 ans pour avoir des enfants, ça n'a pas de sens. Pas plus que ça aurait de sens si elle avait été arrêtée parce qu'elle avait eu un accident d'automobile et avait été à l'hôpital pendant 2 ans. Là. Mm-hmm. Donc, ça peut avoir l'air évident, mais ce sont des raccourcis qu'il faut vraiment éviter de faire. Et il faut le dire quand on présente, tu sais, dans nos documents, faut pas. Il n'y a rien de pire qu'un curriculum vitae avec des trous, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, si quelqu'un a des trous parce qu'elle a arrêté pour avoir des enfants, ou un enfant avait des difficultés, ou pour prendre soin de ses parents, il faut le dire. Les gens peuvent... Il faut les aider à nous aider. Je pense que ça, c'est peut-être le bout qui revient aux individus. Puis il faut aussi comprendre qu'il y a des... Tu sais, il y a des choses qui doivent être faites, puis des tâches qui doivent être partagées. Donc, on ne peut pas choisir seulement les choses agréables pour des raisons d'équité. Donc, il faut aussi être équitable dans nos demandes. Mais oui. Je ne serais pas prête à lancer la pierre aux femmes là, pour le moment.
T'sais, dans le fond, c'est ça, quand on crée des lois ou des nouvelles règles ou des nouvelles politiques, etc., il faut les penser avec les personnes et non avec les personnes qu'elles ciblent finalement, donc avec les femmes, et non sans elles, puis leur imposer après, parce que ça peut ne pas correspondre à leurs besoins également. Donc, c'est ça, faut s'écouter, dans le fond, dans tout ça. Selon vous, quels seraient vos conseils pour de jeunes femmes qui débutent leurs études en ingénierie?
Bon, d'abord, je les rassure tout de suite, là. Quand on s'en va en ingénierie, on n'a pas besoin de vendre la table au diable, là. On peut faire des changements très importants de l'intérieur, et c'est très valorisant, très intéressant. Donc, il faut être prêt à comprendre les impératifs des employeurs, mais ça nous donne juste plus de moyens pour faire ce qu'on veut faire. Ensuite, bien, je dirais aux filles, faites ce que vous aimez, puis aimez ce que vous faites. Quand on fait du travail bâclé, là, c'est pas agréable, on se sent pas bien, puis c'est pas apprécié. Donc, à un moment donné, quand on travaille, on va faire des morceaux du boulot qui sont pas nos préférés. Il faut les faire aussi bien, mais on finit par être bon dedans, donc on les aime plus quand on est bon. Donc, je dirais, suivez vos passions, passionnez-vous pour ce que vous faites. Si vous pouvez, si vos conditions de vie le permettent, à l'université, impliquez-vous dans des trucs autres que des cours. Il y a plein d'associations, il y a des comités techniques, si on veut rester dans technique, mais il y a des comités qui sont plus de nature artistique, sportive, des échanges, le comité environnement, mettons. Il y a plein de trucs à faire, puis là, on fait des rencontres en dehors de gens qu'on côtoie tous les jours. Les associations étudiantes. Donc, c'est je comprends que ça prend du temps, mais ça fait partie, dans notre vie professionnelle aussi, on va faire des trucs en marge de ce pourquoi on est payé. Puis restez vous-même. Les étudiants aussi, qui prennent un rôle de j'appelle ça des rôles de composition, là, qui choisissent des façons de faire ou même des domaines qui ne les passionnent pas vraiment. Hey, c'est long, longtemps, là. Le faire pendant 4 ans à l'université, peut-être c'est faisable, mais imaginez travailler 30 ans dans quelque chose qui ne nous passionne pas vraiment. Si on commence dans une voie et on s'aperçoit que ça ne fait pas, il faut changer pour quelque chose qu'on veut vraiment embrasser pour le restant de notre carrière. C'est pas une course, là, des études universitaires. C'est le moment, justement, d'explorer des trucs, puis de finir au sortir avec quelque chose qui nous convient vraiment.
Oui, c'est ça. Ben, j'ai beaucoup aimé votre intervention par rapport à s'impliquer dans d'autres choses, parce qu'on voit beaucoup que ce que les employeurs veulent chez les étudiants et les étudiantes, surtout en génie, c'est qu'ils approfondissent leurs compétences transversales. Donc, tout ce qui est par rapport à la communication, par rapport à le réseautage, les relations entre professionnels, etc. Donc, c'est vraiment en sortant des salles de cours puis en s'impliquant dans d'autres choses qu'on va pouvoir approfondir ces nouvelles compétences-là.
Louise aussi, vous êtes devenue la première femme à la direction d'un département de Polytechnique Montréal et d'ailleurs vous avez complété 6 mandats. Est-ce que vous vous considériez comme une femme ambitieuse et est-ce que vous avez eu affaire à des réactions inattendues concernant cette nomination?
De décider de partir du milieu privé pour retourner à l'université, pour moi, ça a été ça n'a pas été une décision que j'ai prise à la légère. Qualifier ça d'ambition, c'est pas le mot que j'utiliserais, mais pour des raisons purement culturelles. Chez nous, quelqu'un qui était ambitieux, c'était pas une qualité. On mélangeait, je pense, arriviste et ambitieux. Donc, je ne me serais pas qualifiée comme ambitieuse. Mais de connaître ma valeur, de connaître mon potentiel, oui. Faut pas avoir une fausse modestie non plus. J'ai eu des réactions avant de faire le saut vers Polytechnique. D'abord, c'est une longue saga que je vous raconterai pas. C'est vraiment un ancien collègue de Cégep, en fait, que j'ai rencontré dans un événement pour les diplômés de ma promotion, qui m'a dit « Hey, le département cherche une nouvelle directrice, ça ne t'intéresserait pas? » Parce que je lui disais que le boulot dans lequel j'étais, j'avais envie de changer. Là, j'ai dit « Voyons donc, ils ne me reprendront jamais, j'ai pas un profil universitaire. » Bon, le reste, c'est de l'histoire. Ça a pris plusieurs mois. J'ai fini par faire le concours et j'ai été engagée pour devenir directrice de département. Il fallait d'abord que je sois engagée comme professeure, donc que je prouve que je ne leur ferai pas honte, et ensuite que je sois directrice de département. Donc, ça a été assez copieux. Puis la chose qu'on m'a dite le plus souvent après mon arrivée à Polytechnique, et ça a dû durer deux ans, c'est quand les gens me rencontraient, ils disaient « Ah, c'est vous, ça! » C'est comme si j'étais vraiment quelqu'un... Ben, j'étais quelqu'un avec un profil vraiment atypique. De ne pas être issu du milieu universitaire, de venir du privé, de ne pas être professeur de carrière. En tout cas, il y avait beaucoup de premières roulées dans ma candidature. Mais c'était pas... C'était jamais une critique, c'était comme un étonnement, une curiosité. Les gens de l'industrie trouvaient que j'avais fait un drôle de choix, là, que je ne serais probablement jamais acceptée. En fait, toutes les choses que tout le monde m'ont dites avant que j'arrive, il n'y a rien de ça qui s'est avéré et je n'ai jamais regretté mon choix d'être venue à Polytechnique. Donc, il faut prendre des risques aussi, hein? On peut dire ça aux étudiants. Il faut des fois se mettre dans des situations très inconfortables. J'avoue que quand j'ai signé la lettre, ma lettre de démission et ma lettre d'acceptation du poste à Poly, je me suis réveillée à 6 heures le matin et j'ai marché jusqu'à Polytechnique. Je me suis assise dans les escaliers et je me suis dit « qu'est-ce que j'ai fait? » Mais on a survécu, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des personnes qui étaient en place. Finalement, j'ai été bien acceptée.
Bien, c'est super. Bien, je suis contente pour vous, en fait, que ça ait fonctionné parce que souvent, on entend que les parcours atypiques à l'université, c'est pas toujours facile pour entrer à l'université comme professeur ou encore pour avoir des subventions, etc., parce que souvent, ça a un jeu sur la performance. Mais pensez-vous que... c'est des choses qui sont peut-être plus valorisées aujourd'hui, les parcours atypiques, ou ça n'a pas vraiment changé selon vous?
Bon, si on pense là, on parle de la carrière des professeurs. Si on pense à ce qui est attendu des professeurs maintenant par rapport à ce qui est attendu il y a 20 ans ou 30 ans, moi, je considère que c'est démesuré. Et dans ce sens-là, tout ce qui s'éloigne du, tu sais, bac maîtrise, doctorat ou bac doc, hein, ça va encore plus vite, post-doc, autre post-doc, publication, tout ce qui s'éloigne de ça, c'est très difficile d'obtenir des financements. Il y a eu une augmentation, une explosion du nombre de personnes qui demandent des subventions. Les subventions, évidemment, n'ont pas suivi. Donc, puis les coûts augmentent. Donc, les parcours atypiques pour embrasser une carrière de professeur, moi, les dossiers que j'ai fait en 20 ans, j'ai fait des embauches de dizaines de professeurs. Les dossiers que je reçois maintenant, là, c'est déjà leur réalisation au sortir du doctorat, c'est incroyable. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on se calme.
Mm-hmm.
Il va falloir qu'on se ramène à ce qu'une personne normale ayant une vie en dehors de son travail peut produire. C'est vraiment la course aux indicateurs.
Donc, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que, en fait, c'est pire aujourd'hui que c'était il y a 20 ans. Les parcours atypiques sont encore moins acceptés aujourd'hui.
Je pense que oui.
Oui.
Okay. Parce que oui, il y avait des professeurs. Il y a encore quelques professeurs qui sont à Polytechnique qui n'ont pas de doctorat. Je pense que ce n'est même pas.
Aussi, le fait que peut-être on en demande toujours plus ou qu'on s'attende à ce que, au niveau du recrutement, justement, il y a de plus en plus de réalisations, c'est très peu équitable aussi dans un sens où on parle des femmes, mais d'autres groupes aussi n'ont pas forcément la chance de faire ces réalisations-là parce que c'est aussi à l'extérieur du parcours, mais ça demande du temps. Puis si on est dans des situations plus précaires, ben ça ne permet pas de faire ces réalisations-là.
Oui, en ce moment, il y a une espèce, en tout cas, selon ma perception, on est encore dans une transition où il y a des intentions d'avoir plus de diversité dans le corps professoral. Il y a eu même des mesures mises en place par les organismes subventionnaires avec des obligations de résultats, sauf que les propres systèmes d'évaluation des candidatures par les organismes subventionnaires, étant donné la façon que c'est fait, étant donné les moyens qu'ils ont, tu comprends que moins on a d'argent, plus il faut éliminer des gens. T'sais, à un moment donné, il faut que tu les élimines sur une base commune. Puis ça, là, vraiment, on se tire dans le pied. Là. C'est comme on essaie de... On a un discours qui veut faire la promotion de quelque chose, mais les moyens... Puis le contexte dans lequel on envoie ces nouvelles personnes-là en compétition avec leurs pairs pour partir leur carrière, on les aide pas. Là. Donc, c'est comme on met une obligation de résultat puis on ne donne pas aux gens les moyens. Je pense qu'il y a une réflexion très, très sérieuse à avoir sur l'ensemble des conditions pour avoir des milieux avec plus de diversité, des parcours atypiques plus considérés avec tous leurs bénéfices. D'ailleurs, quand on regarde le cheminement des étudiants universitaires, donc les étudiants universitaires étant souvent les futurs professeurs, le cheminement typique est de plus en plus rare. Il y a de plus en plus d'arrêts, de retours aux études, de changements. Donc, je pense qu'on n'aura pas le choix, là, ça va venir, sauf que là, on est vraiment dans un moment où on demande des résultats pour l'inclusion, mais les systèmes d'allocation des subventions ne suivent pas. Là. Les universités, c'est pas correct d'engager non plus quelqu'un sur un poste de professeur quand on sait que dans l'arène des demandes de subventions, il ne pourra jamais avoir de subvention étant donné l'état de son dossier. T'sais, on ne veut pas faire ça, on ne veut pas les engager et les mettre dans des situations d'échec. Donc, ça place tout le monde dans un... C'est comme impossible. On ne peut pas faire une chose et son contraire.
D'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est important de valoriser l'équité, la diversité et l'inclusion en ingénierie? Est-ce que ces valeurs devraient prendre plus de place?
C'est clair. Toutes les activités, que ce soit la pratique du génie dans des firmes d'ingénieurs ou dans le milieu de la grande entreprise, que ce soit dans le milieu universitaire, toutes les activités bénéficient d'équipes plus diversité. La recherche montre que les équipes diversifiées sont plus créatives, donnent des résultats qui sont plus robustes. C'est sûr que quand on construit des choses avec toutes les facettes à la table pour nous montrer des choses qu'on pourrait ignorer parce qu'on ne les voit pas, parce que ce n'est pas notre réalité, ce qu'on construit est beaucoup plus robuste. Dans un projet de conception, que les gens n'aient pas pris, puis ça m'est arrivé, que les équipes n'aient pas pris acte du fait que tout le monde ne peut pas marcher un demi-kilomètre pour se rendre dans une gare du point A au point B, puis qu'il faut prévoir des alternatives pour des gens qui ont des poussettes, des gens à mobilité réduite, des personnes âgées. Ça se dit. Il faut que ça devienne partie des choses dont on ne peut pas éviter de tenir compte. Et oui, c'est une richesse, absolument.
Et en tant qu'experte en développement durable, quelle place celui-ci devrait prendre en ingénierie?
Je pense qu'au début, j'ai parlé des défis dans le génie pour les prochaines années, dans la formation des ingénieurs, mais aussi dans la pratique. Je pense que le développement durable, là, il n'y aura pas de développement. On ne peut pas maintenir le développement pas durable qu'on a actuellement. Donc, il faut absolument que toutes les réalisations, les décisions, les choix soient faites de façon éclairée compte tenu du contexte fini de la planète, compte tenu de l'accumulation des problèmes puis des impacts que nos activités amènent. Donc, il faut que tout le génie devienne durable. Et ça, c'est une grosse commande parce que c'est pas dire on va faire des technologies vertes, là. Dans bien des cas, ça veut dire on va faire moins de technologies. Mm-hmm. On va être plus frugal dans nos choix. On va recycler. C'est pas une fuite en avant vers plus de technologies. Donc, je pense que c'est cette place-là, je le dis souvent, pour moi, le développement durable, la prise en compte de toutes les dimensions du développement durable, ça devrait être comme prendre en compte la force de la gravité sur Terre. Il n'y a personne qui fait un quelconque ouvrage sans penser que la force de la gravité va agir, puis que l'eau va couler vers le bas, puis que les choses ne vont pas s'envoler. Bon, bien, le développement durable, ça devrait être une contrainte aussi intégrée de dire, oups, là, je suis en train de proposer l'utilisation d'un matériau qui va demander des ressources inouïes pour le trouver et l'extraire. Peut-être qu'il faudrait que je trouve d'autres choses qui va être renouvelable, justement, ou entièrement recyclable. Donc, je pense que ça, c'est le défi qui nous... que ça nous tente ou pas, là. Si l'ingénierie ne devient pas durable, il n'y aura pas grand-chose pour faire des projets d'ici quelques années. On est vraiment perché au bord d'une décision que je ne peux pas voir quelle autre décision que de rendre le génie plus durable on va prendre.
On parle de développement durable, puis il y a des gens comme moi qui font de l'éco-anxiété. Est-ce que les personnes qui travaillent dans le développement durable, les ingénieurs, à force de penser à tout ça, vivent ce genre de problématiques personnelles-là, selon vous? Est-ce que vous vivez un peu d'éco-anxiété parfois ou non?
J'avoue que... Il y a un certain... quand on est dans le domaine, il y a une certaine exaspération ou un certain cynisme qui finit par s'installer. Puis là, des fois, bien, on a des surprises où il y a des grandes avancées qui se font d'un grand coup sec où est-ce qu'on pensait jamais que c'était possible. un exemple qui date un peu, mais que je connais pour l'avoir vécu de proche, là, c'est le trou dans la couche d'ozone. Tu sais, dans les années 90, quand on a découvert le trou, quand on a pas découvert, il y avait deux gars que ça faisait 20 ans qui criaient sur toutes les plateformes qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, puis il n'y a personne qui les écoutait. Les gens leur disaient « Vos instruments sont mal ajustés, c'est une erreur. » Bon, bref, ça a pris 20 ans pour qu'ils soient entendus. Mais quand ils ont été entendus, en 5 ans, là, tout le monde s'est donné des lois. On a arrêté de produire et d'utiliser des substances qui créaient les trous dans la couche d'ozone. Puis vraiment, ça a été incroyable la vitesse à laquelle on a réussi à trouver des solutions. Et pourquoi que dans le cas de la couche d'ozone, ça s'est fait comme ça? Bien, parce que il y avait des études claires qui disaient que pour les populations à la peau blanche, n'est-ce pas, chaque augmentation de la taille du trou, là, je ne me souviens pas c'était quoi l'unité, mais ça conduisait à une augmentation de 4 % des cancers de la peau. Donc, ça, tout d'un coup, c'est devenu personnel, puis les gens étaient capables d'agir. Donc, il y a un certain... C'est le cynisme de dire on est capable. Les êtres humains, on est des créatures adaptables, pleines de ressources. Les ingénieurs sont pleins de génie, mais à un moment donné, il faut que la motivation soit là. Et je pense qu'il va falloir que jusqu'à un certain point, ça fasse un petit peu mal pour motiver les gens. Donc, je pense qu'on est peut-être en train de voir le début de que ça fait mal puis que c'est réel, que c'est pas juste des choses qui se produisent loin de nous. Donc, on est condamné à l'optimisme. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se coucher à terre puis dire il n'y a rien à faire, on va attendre de tout passer au feu? Non. On est condamné à l'optimisme, puis on est beaucoup qui militons pour des changements. Donc, je pense que ça va arriver. Est-ce que la route pour aller là va être comme de la belle asphalte neuve? Non, ça va être plein de trous, puis de bosses, puis de reculs. Mais on n'a pas le choix. On est condamné au succès parce que la planète va juste se débarrasser de nous.
Mais dans le fond, c'est ça. Vu que vous travaillez directement dans les solutions, ben peut-être que c'est plus... pas facile, là, mais en tout cas, l'optimiste est peut-être plus présent que nous, qu'on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas quoi faire.
Je pense que la solution, dans tous les cas d'anxiété, puis les cas de... Ce qui nous rend le plus inconfortable dans nos vies, c'est quand on n'a pas de contrôle, puis on ne peut pas agir. Quand on est pris dans une situation, puis il n'y a rien à faire pour s'en sortir. Alors que pour faire un monde meilleur, plus durable, il y a plein d'affaires qu'on peut tous faire. D'abord, personnellement, il y a des choix qu'on peut faire personnellement, puis il y a des bonnes nouvelles dont on ne parle pas nécessairement. Tu sais, le taux de motorisation chez les jeunes diminue. Mm-hmm. Les jeunes achètent de moins en moins de voitures. Bon, d'accord, le marché offre des voitures de plus en plus grosses, mais ça, il y a moyen de s'opposer. Tu sais, on a arrêté de faire de la publicité sur la cigarette. Pourquoi est-ce qu'on n'arrêterait pas ces publicités, excusez-moi, là, mais débiles, où on associe les gros SUV à aller dans la nature voir des chevreuils? Tu sais, il faut réclamer. Donc, il y a moyen d'agir. Puis, il y a moyen de faire des choix personnels qui ne sont pas si souffrants que ça. Là. Donc, on a un poids. Les jeunes ont un poids. Ils peuvent voter avec ce qu'ils achètent. Ils peuvent voter au bon gouvernement, puis ils peuvent se faire entendre. Donc, je pense que la solution, une des solutions à l'inconfort de l'éco-anxiété, ça n'enlève pas l'anxiété, mais quand on est dans l'action, puis qu'on voit qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, bien déjà, ça nous donne un peu plus de confiance. Donc, je pense que c'est un peu, à part ça, mais il y a des solutions.
Merci pour votre sagesse.
D'ailleurs, petite anecdote, moi, quand j'écoute mes épisodes de balado, des fois, j'ai des publicités pour des autos. Avant, j'ai pas d'auto. C'est peut-être pour ça que je les ai. Mais à la fin des publicités, ils nomment pour faire des trajets courts, privilégier le vélo ou la marche. Donc, c'est ça, une petite avancée.
Ah oui, puis déjà que le vélo soit pas considéré comme il y avait une annonce, là je me souviens plus de la marque d'automobile, alors je peux pas la citer, mais il y avait une auto, une marque d'automobile, il y avait mis en ligne une pub, c'était quelqu'un, une jolie fille dans une auto arrêtée à un feu rouge avec un garçon à vélo à côté. Puis c'était, le garçon regardait l'auto, puis il disait, ah, oh, quand je vais être grand, moi, je veux avoir un véhicule. T'sais, c'était comme infantiliser la personne qui était sur le vélo, puis on est obligé de la retirer à cause du tollé que ça a fait. Fait que, hein? Donc, ça s'améliore.
Donc, on va changer un petit peu de sujet. On va parler plus des modèles féminins. Donc, la récente renommée de Farah Alibé, qui est ingénieure en génie aérospatial, a permis de démocratiser l'ingénierie chez les jeunes filles. Pensez-vous que les jeunes filles manquent de modèles féminins dans les métiers où les femmes sont historiquement sous-représentées?
Je pense que les modèles féminins, là, ça permet, en fait les modèles en général, puis les modèles féminins ne font pas d'exception, ça permet de se projeter puis de croire en nos propres capacités, de voir... des femmes accomplies, influentes, comme Farah Alibé, dans des milieux où il n'y a pas beaucoup de femmes, c'est de se dire qu'on est, on est capable, puis on peut y aller, puis on peut aller dans des domaines qui autrement ne nous auraient pas attirés. Par contre, moi, ce dont je rêve réellement, c'est qu'on voit dans les médias autant de femmes que d'hommes ingénieurs. Autant de petits puis de gros projets, puis de femmes dans toutes sortes de postes, des postes de conception, des postes de gestion, en politique. Je voudrais qu'on voit plus de modèles de femmes partout. Donc, on monte souvent, puis on ne fait pas exception là, dans le milieu universitaire, dans les cérémonies de collation des grades, tout ça, on a souvent tendance à demander à des personnes vraiment exceptionnelles, des étudiants vraiment exceptionnels de nous faire des présentations. Tu sais, c'est des étudiants, des étudiantes qui ont 4 sur 4 de moyenne, ont fait des stages à l'international, parlent deux langues, jouent de la musique, font des sports de haut niveau, tout ça dans finissant leurs études dans un temps record. Est-ce que les jeunes se reconnaissent nécessairement dans ces créatures d'exception-là? Je ne suis pas sûre.
Non.
Moi, ça m'aurait pas. Moi, j'aurais dit, oh mon Dieu, je ne serais jamais capable de faire tout ça. Ça m'aurait plutôt découragée. Donc, je pense qu'on manque. Tu sais, on est toutes les gens sont différents. Puis ce qui nous motive, c'est différent. Ce qui peut motiver une personne, par exemple, une compétition, peut complètement démotiver un autre parce que ça va l'angoisser. Donc, je pense qu'il faut avoir des modèles aussi diversifiés qu'on a de personnalités. Donc, oui. Des gens qui sont largement vus dans les médias, surtout quand ils sont drôles et sympathiques comme Farah Alibé, c'est bien, mais j'aimerais ça qu'on mette aussi en lumière des gens qui n'ont pas eu juste des succès, qui ont eu des difficultés, qui ont changé d'idée, puis qui finalement ont fait des super belles carrières. T'sais.
Ben, je suis vraiment d'accord avec ça. Puis, entre autres, souvent, en fait, c'est qu'on met souvent sur un piédestal même les modèles qu'on voit à la télévision et tout ça. Mais quand on fouille un petit peu, on se rend compte ben, qu'ils ont une vie normale comme nous. Puis que finalement, ils ont vécu des défis eux autres aussi pour y arriver. Donc, c'est ça, on avait fait une entrevue avec Farah Alibé, puis ça avait été vraiment génial. Elle nous avait expliqué son parcours, puis tous les défis qu'elle avait eus pour arriver jusque-là. Donc, tu sais, ça se fait pas avec un coup de baguette magique, là. Tout simplement, je pense que oui, c'est intéressant de montrer des modèles exceptionnels, comme vous le dites, pour montrer que ça existe, que c'est possible, mais c'est encore plus intéressant de montrer toutes les facettes ou de montrer dans des milieux qui sont plus modestes, on va dire, et peut-être plus accessibles pour tout le monde. Parce qu'on s'entend que, même si Farah Alibé a eu des défis, on s'entend qu'elle est exceptionnelle aussi parce qu'elle parle plusieurs langues, elle a pu aller dans différentes universités à travers le monde, etc. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ça. Donc, avoir des parcours plus normaux, plus habituels aussi, pour montrer aux gens, puis aux jeunes filles, que c'est possible d'avoir... une carrière heureuse en génie ou en sciences dans les milieux plus traditionnellement masculins.
Puis ça en revient aussi un petit peu à la glorification de la performance dont on parlait tantôt, dont on veut un petit peu se sortir pour pas que justement arriver au niveau du recrutement ce soit des CV beaucoup trop intenses au niveau réalisation, parce que ben, comme vous le disiez tantôt Louise, c'est important aussi de remettre la place du travail, puis plus comme encadré dans nos vies, puis savoir qu'il y a d'autres choses aussi à côté pour s'épanouir. Puis ma dernière question que je pose à chaque fois, c'est est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire particulièrement dans votre domaine?
Franchement, là, j'ai été... là, je suis entourée de femmes extraordinaires à l'université, des profs, bien sûr, mais aussi des étudiantes, des professionnels qui sont en soutien. Il y a vraiment des gens... il y a des femmes que je les regarde, là, puis les bras me tombent. J'ai aussi eu la chance de rencontrer des gens qui sont des monuments. Par exemple, Michèle Thibodeau-Deguire, qui a été la première femme diplômée en génie civil, pas la première femme dans tout Poly, mais la première femme diplômée en génie civil de Polytechnique en 1963. Ça faisait 90 ans que Polytechnique existait. Puis génie civil a été créé dès le départ. Donc, ça faisait longtemps, puis pas de femme. Donc, elle est, non seulement elle a fait son bac en génie, mais elle a travaillé comme ingénieure en structure pour des firmes de consultants. Je vais vous nommer juste quelques bouts de son parcours. Elle est ensuite allée devenir déléguée du Québec à Boston. C'était la première fois qu'un délégué du Québec, quelque part sur la planète, était une femme. Puis elle est revenue, puis elle a pris la présidence de Centraide, qu'elle a menée pendant 20 ans. Puis là, elle a été présidente du conseil d'administration de Polytechnique. En tout cas, elle a fait des choses vraiment extraordinaires. Tout ça en ayant une famille puis des enfants. Donc, ce genre de carrière-là, encore aujourd'hui, je me dis que moi, j'aurais probablement jamais été capable de faire tout ça. Donc, on a tous nos petites limites internes. Le problème quand on nomme quelqu'un, c'est qu'on passe sous silence. Là. J'ai l'impression de passer sous silence des gens des femmes que j'ai côtoyées qui sont tout aussi exceptionnelles. Je pense à une, entre autres, qui est ingénieure, qui est issue de l'immigration. Puis quand elle est arrivée ici, elle a travaillé dans le milieu du traitement des matières résiduelles. Alors, c'est pas un milieu facile, là. Surtout pour une femme et une femme ingénieure. Elle a fait ça sans perdre sa bonne humeur, sans devenir cynique, mais en gardant sa place. Tu sais, elle se laissait pas marcher ses pieds, puis elle a continué sa carrière, puis maintenant, elle a un poste vraiment très bien dans une très grande société. Donc, des parcours comme ça, je trouve ça extraordinaire. Même moi, quand j'enseignais, une année, j'enseignais à la formation continue, puis dans ma classe, j'avais des gens de toutes sortes d'univers. Puis, je me souviens, une année, au moment de recevoir mon premier devoir, donc j'avais donné, là, je recevais les copies, il y avait une copie, c'était comme, voyons donc, c'était un cours d'introduction, puis la personne m'avait quasiment fait un cours de, tu sais, un design complet de conception d'usine. Là. Fait que là, quand j'ai remis le devoir, j'étais à la pause, est-ce que je pourrais vous parler? Je pense que vous n'êtes pas dans le bon cours, là. Il faudrait peut-être aller faire une maîtrise. Avec la personne, c'est ce qu'elle a fait. Mais donc, ça aussi, c'est une personne issue de l'immigration qui n'avait pas confiance en ses capacités. Donc, nommer une personne, c'est d'en oublier beaucoup qui sont tout aussi exceptionnelles. Les femmes ingénieures ont toutes les mêmes capacités, puis les mêmes compétences, puis toutes les mêmes forces que les gars peuvent avoir. C'est juste qu'il faut les essayer. Pour se rendre compte de ça.
Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas oublier toutes les personnes qui nous entourent. C'est tous et toutes des modèles pour chacun et chacune d'entre nous. Nous, dans le fond, Le but derrière cette question, c'est tout simplement pour que nos auditeurs et auditrices puissent avoir des idées de modèles à aller rechercher sur Internet, puis voir les différents parcours qu'elles ont eus, puis les inspirer. Mais je comprends tout à fait votre intervention par rapport à ça. Puis, en fait, ça serait la fin de l'émission. Donc, on vous remercie énormément, Louise, pour être venue sur notre podcast. On a bien aimé jaser avec vous. C'était super intéressant. Plaisir de vous reparler.
Bien, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de partager un peu mon parcours, puis mes réflexions, puis mes opinions, qui n'engagent que moi, évidemment. Mais vous avez été bien patiente avec mes variations autour de votre question, vos questions.
Merci, Louise.
C'était un super épisode de Balado. Toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode, Léa?
Bien, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on parle des exigences qui ont augmenté. J'avoue que je pensais que les parcours atypiques avaient un peu plus de valeur aujourd'hui, donc je me trompais visiblement. Donc les exigences ont augmenté, puis on observe des nouveaux standards, un nouveau seuil qu'il faut dépasser, puis qui a l'air d'être toujours plus haut. Ce qui entraîne toujours plus de compétition, puis ça peut paraître un peu inatteignable. Donc peut-être que ça peut être un frein aussi, tu sais, à la place des filles et des femmes en sciences et en génie, de se dire, ben moi, je n'arriverai pas à atteindre ça, j'ai déjà des obstacles à franchir en tant que femme. C'est ça, c'est en lien avec cette performance qui doit toujours être de plus en plus importante. Mais si on veut faire un lien avec le développement durable, il faudrait ralentir. Donc, qu'il y ait une décroissance qui s'opère aussi au niveau des attentes. Parce que de toute façon, ces attentes-là ne sont pas équitables. Parce que les groupes marginalisés ont déjà des obstacles de base. Donc, ça va juste être des seuils atteignables par des personnes qui ont moins d'obstacles. Puis ça entraîne vraiment des gros impacts sur la santé mentale. Là, on voit les impacts que ça a sur la santé mentale des personnes étudiantes aujourd'hui, puis même du personnel du corps professoral.
Pour rebondir sur le ralentissement, donc la nécessité de faire de la décroissance au lieu de la croissance, donc de mon côté, j'ai aimé la section sur l'éco-anxiété, même si c'était pas tant prévu qu'on parle de ça, c'est venu me chercher. Quand on parle de développement durable ou d'environnement, pour moi, c'est certain que ça va aller vers là. Puis j'ai aimé que, dans le fond, elle parle que les technologies, c'est pas nécessairement les technologies qui vont être les solutions pour le développement durable, pour un meilleur environnement. Donc, il faut penser à la source de chaque projet, donc les matériaux qu'on va utiliser, etc. Donc, ce n'est pas nécessairement de créer des nouvelles technologies pour améliorer notre environnement, mais plutôt de repenser au complet notre projet pour s'assurer qu'il soit durable avec les bonnes ressources. Donc, ça, c'était vraiment intéressant de mon côté, ce que j'ai aimé. Puis aussi, c'est certain qu'au niveau individuel, des fois, on se pose des questions, bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On se sent un peu impuissant, puis on n'a pas de contrôle. Il faut se dire que c'est pas juste à nous de faire tous ces efforts-là, mais aussi, il y a des gens qui travaillent là-dessus en arrière, puis qui sont spécialisés là-dedans. Donc, on peut rester optimiste de ce côté-là. Donc, ça m'a fait un peu de bien d'en parler avec une spécialiste du développement durable.
Ah, tant mieux si ça peut adoucir un petit peu ton anxiété. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt pour le prochain et dernier épisode.
À la prochaine!